Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. La France est de plus en plus considérée comme un pays innovant, attractif, en pointe dans la recherche, notamment en santé. Certains parlent même de Start-up Nation. Serait-ce dû à une synergie tant attendue entre acteurs publics et privés, entre chercheurs, médecins, start-up, industriels et investisseurs? Ce dynamisme nouveau est-il réel? Avons-nous les moyens d'innover en santé, de doper notre indépendance sanitaire et en même temps exporter le fruit de nos réalisations? Cela semble être le cas, en tout cas, dans la filière de la radiologie, de l'imagerie. Et pour en parler aujourd'hui dans le Check-up Santé, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Contarassu, qui est présidente de GE Healthcare France, Belgique, Luxembourg et Afrique francophone. Le professeur Alain Luciani, radiologue, directeur médical du DMU Fonction Images et Interventionnelle Thérapeutique à l'hôpital Henri Mondor. Et Benoît Collineau, directeur des projets stratégiques en santé chez Business France. Check-up Santé, c'est parti. Laurence Contarassus, bonjour.
Bonjour.
Benoît Collineau, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alain Luciani, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors Alain Luciani, vous êtes professeur donc de radiologie au CHU de Henri Mondor. Vous êtes directeur médical du, je viens de le dire, du DMU Fonction Images et Interventionnelle Thérapeutique, toujours à Henri Mondor, hôpital universitaire. Il y a combien de radiologues en ce moment en France?
En France, il y a 9400 radiologues qui exercent la plus belle spécialité du monde.
Après la cardiologie, bien sûr.
Ça, c'est vous qui le dites. C'est 9000 radiologues, à peu près 57% d'exercice libéral. Il y a 200 hospitalo-universitaires. Il y a 1300 ouais. étudiants internes dans le domaine de la radiologie.
Mmh. Et ça fait beaucoup d'actes de radiologie.
Ça fait 80 millions d'actes par an. À peu près, en sachant qu'il y a encore une grosse proportion de radiographie conventionnelle, mais que bien sûr on va parler d'équipements innovants, donc on va parler de scanners, d'IRM et de tous ces nouveaux équipements qui permettent d'améliorer les soins chez nos patients.
Est-ce qu'il y a, comme dans nos spécialités, une pénurie non, de...
Alors il y a une pénurie, ouais. On n'est pas assez nombreux pour faire tout ce qu'on voudrait faire, parce que le champ de la radiologie il s'est étendu. On va du dépistage, on reparlera de la prédiction, il va jusqu'au diagnostic, à la thérapeutique, donc on est sur tous les champs, on a besoin de beaucoup encore de monde, et puis dans les spécialités, on reste extrêmement bien choisi, puisque là récemment, sur le choix des internes, on était dans le top 5 des spécialités, avec toujours un engouement des jeunes pour faire ce métier passionnant de la radiologie.
Quand on pense qu'on disait il y a 5 ans que la radiologie allait disparaître à cause de l'IA,
et on est toujours là.
Vous êtes toujours,
toujours
là, tant
informé.
Mieux.
Voilà.
Benoît Collineau, vous êtes directeur des projets stratégiques en santé chez Business France. Quel est le rôle, quelle est la mission de Business France en France?
En quelques mots, Business France, donc, c'est l'opérateur national chargé par l'État donc, de l'internationalisation de l'économie française, ce qui veut dire deux grandes choses, deux grands métiers. Le premier, c'est l'accompagnement des start-up françaises et des entreprises françaises au sens plus large dans leur développement à l'international, trouver des partenaires, trouver un distributeur, trouver un hôpital pour faire sa recherche clinique. Et le deuxième métier, c'est l'accompagnement des opérateurs, des entreprises étrangères dans l'augmentation de leur empreinte en France en termes de recherche, en termes d'empreintes industrielles, évidemment. Donc, ce sont les deux grands métiers que Business France fait.
Donc, c'est de l'import-export, en fait. Vous essayez de faire en sorte que les sociétés soient plus visibles à l'étranger, peut-être,
oui.
Non?
Oui. Il y a beaucoup de synergie, en fait, entre les deux métiers, puisque beaucoup d'entreprises qu'on accompagne à l'international vont chercher des investissements aussi. Ça leur permet aussi, finalement, d'investir en France. Donc, en fait, il y a beaucoup de synergie entre les deux choses.
Donc, beaucoup de collaborateurs chez Business France?
1500, 65 nationalités, et on couvre à peu près 110 pays.
Quand même. La France est restée quand même attractive. On va en reparler tout à l'heure. Elle reste attractive quand même dans le...
D'après EY,
de la santé,
donc,
ouais.
On leur demande une étude chaque année. Donc ça fait la quatrième année consécutive que la France, en termes de nombre de projets accompagnés et instruits, est première en Europe.
Première en Europe.
Avec presque 1300 projets.
Laurence Contarassus, vous êtes une habituée de l'émission. On en est ravis d'ailleurs. On en
Merci
est ravis.
Fabien.
Bah, bien sûr. Donc vous dirigez, vous, GE Healthcare en France, Belgique, Luxembourg et Afrique francophone. GE Healthcare, c'est une entreprise américaine, mais la filiale France est hyper importante, non?
Alors nous, on aime dire qu'on est des employés français, et moi une patonne française, peut-être sous capitaux en effet américains, ce qui fait toute la différence. Oui, General Electric Healthcare en France, déjà, on est très fiers de notre empreinte française, puisque c'est beaucoup d'employés, c'est de la recherche et développement, comme on en discutait, c'est de la fabrication, c'est bien évidemment de la vente, de la maintenance, mm-hmm. pour un grand nombre d'équipements, entre autres pour la radiologie. On parle beaucoup d'équipements, mais aussi beaucoup d'intelligence artificielle.
GSK est leader en imagerie.
On est un des leaders en imagerie. Et puis, c'est aussi beaucoup d'innovation, beaucoup de partenariats qu'on pourrait d'ailleurs pas faire, et c'est la raison pour laquelle on est trois sur le plateau. On a besoin d'être tous ensemble, on a besoin des centres, on a besoin en effet de partenariats privés, de partenariats publics-privés, et comment on peut aller toujours plus loin pour être certain qu'on est toujours des radiologues dans quelques années, mais encore mieux équipés. Donc moi, j'ai ma boîte à outils d'acteurs de santé responsables, et on fait aussi la boîte à outils des radiologues.
Et on en parlait avec Benoît Collineau, vous aussi vous exportez?
Alors oui, nous, tout ce qu'on fait à Buc, hein, puisque nous, on a tous les tubes, on a toute la mammographie, on a toute l'intelligence artificielle, et puis une annonce dont on va parler, je suis sûre, très bientôt, c'est 90% d'exportation.
Donc en fait, en gros, hein, si on résume hein, les trois axes un petit peu de GE, c'est l'imagerie interventionnelle, c'est la mammographie, sont les logiciels d'intelligence artificielle, c'est ça?
Oui, on a aussi l'ultrason, la réanimation, l'anesthésie, et puis le service qui est une part très importante, parce qu'avoir des équipements, en avoir suffisamment, ce qui n'a pas toujours été d'ailleurs le cas en France, hein, c'est pour ça qu'on continue à investir, il faut aussi les maintenir. Donc c'est aussi un axe très important.
Alain Luciani, je me rappelle, il y a 20 ans, mes copains radiologues, je les traitais de photographes, ça a changé quand même, non?
A beaucoup changé. Non, mais le métier a beaucoup changé.
C'est vrai.
Le radiologue, il est à la fois, comme je le disais, à faire du dépistage, donc faire de la prévention. Il est sur le diagnostic, il est en interaction avec son patient. Les patients ont besoin d'encore plus d'explications. On va parler sans doute d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, comprendre des éléments qui sont analysés ou pré-analysés de l'intelligence artificielle, ça nécessite beaucoup de dialogue humain, beaucoup de présence. Et puis, il y a tout le champ de la radiologie interventionnelle qui s'est ouvert. Encore une fois, très attractif.
Qui n'existait pas il y a 20 ans.
Qui n'existait pas ou qui était embryonnaire, ouais, en tout cas, il y a 20 ans, et qui maintenant prend une part exceptionnelle dans le traitement et dans les prises en soins de tous nos patients.
Oui, donc on peut parler aussi maintenant de l'intelligence artificielle, hein, qui est évidemment présente aussi bien pour le diagnostic que pour le pronostic et aussi pour la prévention.
Mais l'intelligence artificielle, on l'a intégrée tout de suite et elle est dans toutes nos machines. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, son premier domaine d'application, c'est améliorer la qualité des images qui sont produites. Le deuxième niveau, c'est effectivement d'aider à faire des pré-analyses. Et le troisième niveau, qui va être vraiment le grand changement, c'est d'être capable d'extraire dans les images, mais aussi en intégrant des données qui ne sont pas que les images, qui sont les données cliniques, les données d'anamnèse, les données biologiques, d'arriver à améliorer tout le champ de la prédiction. Parce que vraiment, ce qui va nous faire basculer, c'est de passer d'un mode de diagnostic, comme on l'a connu, le photographe fait un diagnostic de quelque chose qui existe, à être capable de prédire l'apparition d'une maladie ou de prédire un risque et de faire basculer la radiologie dans la prévention. Et pour ça, on a besoin de nouvelles technologies.
Et on a parlé aussi de ces nouvelles technologies qui sont tellement incroyablement précises qu'on parle de surdiagnostic parfois.
Je ne crois pas que ce soit du surdiagnostic. C'est à nous, justement, et notamment académiques, d'arriver à bien valider, à être sûr que nous n'avons pas effectivement trop de faux positifs. Mais aujourd'hui, on souffre encore trop de patients qui ne sont pas détectés à tort. On souffre encore trop de patients qui ont des maladies chroniques du foie, par exemple, et qui sont sous-estimés et qui vont développer malheureusement un cancer sur cette maladie chronique parce que nous ne sommes toujours pas capables de la détecter, alors même que certains de ces patients ont bénéficié d'examens d'imagerie, mais pour lesquels la question n'était pas celle-ci et pour laquelle il n'y a pas eu une réponse sur cette maladie chronique qui fait le lit de certaines maladies.
Benoît Collineau, vous êtes chargé donc du développement international des entreprises françaises, des investissements internationaux en France et de la promotion économique de la France. Quel est le contexte de votre action dans France 2030 ?
Alors France 2030, c'est en gros la stratégie en termes de politique industrielle de l'État qui a été annoncée il y a 2 ans, qui touche à tous les secteurs, hein, tous les secteurs considérés comme stratégiques par l'État, donc tout ce qui peut être aéronautique, hydrogène, énergie, alimentation et la santé évidemment là-dedans. C'est 54 milliards.
La santé a une grosse part.
7,5 milliards si on parle en termes d'enveloppe.
Sur
54.
Ah ouais, d'accord.
Quand sur même. 54, donc c'est quand même loin d'être anodin. Et là-dedans, en fait, Business France est chargé en fait de promouvoir cette stratégie à l'international, à la fois sur la dimension export et attractivité. Mm-hmm. Et si on fait un petit peu plus, on zoome un petit peu sur qu'est-ce qu'il y a finalement dans ce plan innovation santé et cette enveloppe de 7,5 milliards. Il y a tout un aspect évidemment sur la recherche et l'innovation, à la fois sur relativement amont, hein, sur les équipements de recherche, sur l'attraction des talents scientifiques, etc. Il y a tout un volet sur la recherche clinique, qui est super important, et notamment d'ailleurs pour les patients en termes d'accès à l'innovation thérapeutique et diagnostique, c'est pas du tout anodin. Il y a un volet l'industrialisation et la réindustrialisation, à la fois sur les produits de santé qu'on peut considérer matures, mais qui sont essentiels pour le système de santé, pour qu'il fonctionne, et puis également sur le volet industriel qui concerne des produits innovants. Médicaments, dispositifs médicaux. Hein. Et enfin, il y a tout un volet, on va dire, sur évidemment sur soutenir notre écosystème de start-up pour les faire grandir, grossir, qu'elles deviennent aussi finalement des acteurs industriels.
Laurence Contarassus, GE Healthcare est présent évidemment en radiologie, mais pas que. Vous dites entreprise responsable. Qu'est-ce que ça veut dire entreprise responsable?
Acteur de santé responsable. Être un acteur de santé responsable, ouais. Ça veut dire faire de l'innovation dans l'équipement, mais pas simplement. Avoir le courage de faire les partenariats, être aussi avoir le courage de participer à la réindustrialisation, justement, parce que en fait notre système de santé, il a besoin de tous ces éléments pour pouvoir se transformer. Et personnellement et en tant que General Electric Healthcare aussi, on est vraiment convaincus que l'on a besoin de travailler tous ensemble pour transformer le système de santé et on doit tous aller plus loin, oser. Donc, par exemple, en termes d'innovation, eh bien, on va travailler ensemble sur des projets de recherche, par exemple, pour justement aller plus loin. On parlait tout à l'heure du diagnostic. Comment est-ce qu'on va plus loin dans la prévention, par exemple, dans notre pays? Parce que l'enveloppe, elle est tellement petite que c'est certain qu'on ne va pas réussir à arriver au niveau que l'on doit. Donc, par exemple, on est en train de travailler sur un protocole, en fait. Alors, il reste confidentiel à ce jour, qu'on a proposé d'ailleurs dans le cadre de France 2030, sur comment est-ce qu'on pourrait utiliser des biomarqueurs pour justement accélérer la prévention dans différents domaines. Donc, il faut avoir le courage d'essayer de mettre en place des programmes différenciants et ensemble.
Et les moyens financiers.
Et des moyens. Et évidemment, on a toujours besoin d'aide, comme on l'a fait sur d'anciens programmes comme iDream, où là, c'était vraiment notre capacité à mettre en place, en fait, différents outils, différents acteurs pour développer en fait de l'intelligence artificielle dont on s'est servi dans le Covid, par exemple.
On va en reparler. Voilà. Donc en fait, c'est comme la médecine holistique, on s'occupe de la globalité du patient. Là aussi, c'est la santé, c'est les partenariats publics-privés, etc.
C'est les partenariats publics-privés, c'est comment on fait de la médecine de précision pour toujours être en capacité à amener l'innovation à tous les patients.
Alain Luciani, donc c'est vrai que ce mur public-privé, c'est un petit peu érodé, tant mieux, et c'est tant mieux.
Heureusement. Pour faire bénéficier à nos patients de ces innovations, je dirais qu'il y a deux grandes étapes. Il y a une étape qui est de la recherche, et là effectivement, on est heureux d'avoir cette proximité entre nos CHU et la PHP, et notamment le CHU Mondor a été partenaire sur les projets qu'on vient de citer.
Donc c'est plus un tabou d'avoir.
Non, c'est pas un tabou.
Partenariat public-privé.
Et c'est au contraire. Mais après, il y a le deuxième levier qui est de transférer cette innovation dans les soins au quotidien, qu'elle soit accessible sur le territoire à tous les radiologues, dont j'ai dit que la majorité a un exercice libéral. Mmh. Et là, je crois qu'on est encore en retard sur cette diffusion de l'innovation, et le rapport de la Cour des comptes d'octobre 2022 le soulignait, on a du mal encore à être capable justement de financer l'innovation. Donc notre force, c'est d'être proche et d'être capable de valider rapidement de l'avancée technologique, mais ensuite, il faut qu'on soit capable collectivement de faire en sorte qu'elle soit disponible pour tous nos patients.
Benoît Coulineau, vous êtes évidemment un acteur public. Hein. C'est quoi la politique de l'État dans la réindustrialisation de la France, notamment en santé?
Il y a un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Hein, il y a à la fois comment on fait en sorte que, en termes de souveraineté sanitaire, les patients français et européens aient accès aux produits de santé qui sont essentiels pour le fonctionnement du système de santé. Et là-dessus, on a une candidature qui est à la fois sur le critère sanitaire, l'importance du produit de santé. On pense aux gants, on pense aux masques, évidemment, on pense au paracétamol, on pense à plein de médicaments essentiels. Et également sur un critère industriel, c'est quelque chose qui est analysé aussi en termes de chaîne de valeur et en quoi la France et l'Europe sont en position un peu critique par rapport à cette chaîne de valeur de production. Donc c'est les deux critères. Donc c'est un peu l'enjeu en matière de réindustrialisation sur les produits de santé matures mais essentiels, encore une fois, et puis également sur donc les produits innovants. Donc on a
des exemples, si on peut avoir des exemples de
produits
de projets réussis, de projets qui ont réussi.
Oui, j'en ai un certain nombre, mais relativement récent. Je pense à CoreWave, hein, qui est une start-up française, qui est de moins en moins une start-up d'ailleurs peut-être, qui vient d'inaugurer sa première usine, qui développe des pompes cardiaques. Première usine dans les Hauts-de-Seine, donc ça devient un acteur industriel dans les faits. Un autre exemple, peut-être aussi sur le volet décarbonation, on n'a pas parlé, mais c'est un gros volet du plan France 2030. Je pensais à GSK qui a annoncé aussi ce mois-ci un investissement de 350 millions d'euros. Et c'est assez intéressant parce que là, on est vraiment.
Vous aussi, GSK, vous êtes impliqué, là, très sensible à cette décarbonation.
Ah oui, on va revenir dessus après.
Oui. Et sur le coup, c'est assez emblématique d'ailleurs cet investissement puisqu'il s'agit de produire en France et de pérenniser l'outil industriel qui existait déjà en matière de production de ventoline. Et en fait, GSK a un nouveau process sur le gaz de propulsion qui permet donc, qui est beaucoup moins impactant en termes d'effet de serre.
Alors, on parle de réindustrialisation, on parle d'indépendance sanitaire, etc. Mais on sait que la France est très très forte dans l'amorçage, dans les investissements. Un petit peu moins quant au suivi des startups. Et j'en ai beaucoup que j'ai invitées. Et quand elles grossissent, elles me disent voilà, on n'a pas d'argent. On est obligé soit de se délocaliser, soit de demander à des acteurs plus qui ont un peu plus de moyens, en particulier les US.
Ouais. Je pense qu'il y a
un problème.
C'est un sujet. Alors, ouais. Je pense que déjà, en termes qualitatifs, on crée peut-être autant de start-up, mais elles sont peut-être un peu plus rodées maintenant qu'elles étaient historiquement, parce que les gens ont plus d'expérience, etc. L'Agence d'innovation en santé, par exemple, pour donner un levier sur lequel l'État travaille à travers l'Agence d'innovation en santé, sont les achats publics. Comment on peut faciliter l'accès des patients, des hôpitaux à l'innovation qui vient des startups françaises. Et puis le deuxième volet aussi, et là sur le coup c'est vraiment un des grands métiers de Business France, c'est aussi comment on peut capitaliser sur ce qu'on peut faire à l'export pour une startup, pour justement démultiplier un peu son chiffre d'affaires, ses moyens, et encore une fois pouvoir en faire plus en France.
Laurence Contarassu, vous nous avez parlé de votre boîte à outils avec qui contient pas mal d'innovations, lesquelles ?
Alors, je pense que dans les innovations, on en a de nombreuses. Et je ne sais pas si c'est le bon moment, mais j'ai envie d'en parler parce qu'on parlait de start-up française. Nous, on a eu le plaisir de racheter la société Imactis qui était à Grenoble il y a maintenant quelques mois. Je pense que le challenge, c'est pas qu'elle soit française ou américaine, c'est qu'elle participe, on se pète, à amener ces innovations dont les patients ont besoin. Et là, ça va être l'intégration de tout le savoir-faire d'une société française qu'on va intégrer en effet dans nos scanners qui vont apporter des solutions à nos médecins pour soigner les patients et nous aussi qui vont nous permettre d'avoir, j'allais dire, une image positive de la France qui va du coup nous permettre d'être en capacité, eh bien, comme on l'a annoncé début octobre, de ramener une chaîne d'assemblage de scanners en France à Buc. Je pense que quiconque l'aurait imaginé l'aurait jamais rêvé. Et tous les gens qui connaissent cet environnement auraient jamais pensé qu'on puisse avoir un scanner fait en France, assemblé en France. Et comme le disait tout à l'heure Alain Luciani, c'est comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour que tout cela, en fait, on puisse continuer à amener de l'innovation. Et une société française comme Imactis qui va pouvoir intégrer une société comme General Electric Healthcare, où on va faire le scanner en France et pouvoir travailler avec des équipes françaises, c'est la solution pour pouvoir continuer à innover et à amener ces innovations.
On a parlé de Daydream tout à l'heure.
Pardon.
Daydream. On en a parlé. Ouais. Ça aussi, ça fait partie des
alors, là aussi,
sur lesquels vous êtes
là aussi, oui. Quand on parle d'innovation, donc ça peut être innovation technologique, innovation organisationnelle. Ça peut être, je veux dire, notre capacité donc à ramener, à réindustrialiser la France. Mais c'est aussi des projets collaboratifs parce que Daydream, c'est ça en fait. C'est un projet collaboratif qui va nous permettre de travailler avec les structures françaises, qui va nous permettre de donner aussi des éléments aux start-up en fait pour pouvoir accélérer leurs recherches et puis aussi de dépenser moins d'argent que si elles ne l'avaient fait elles-mêmes. Donc en fait tout le monde est gagnant en fait. Et je pense que la problématique que l'on peut avoir dans l'innovation, c'est que souvent le dispositif médical est peu connu, donc les gens ont un peu de mal à voir ce que ça peut donner. On communique certainement pas assez et pas de façon suffisamment simple. Donc je pense qu'il faut vraiment continuer parce que
c'est
on l'a vu pendant le Covid.
Dont vous êtes d'ailleurs la présidente.
Merci. Mais on l'a vu pendant le Covid en fait. On a besoin de médicaments, on a besoin de DM, on a besoin de docteurs. C'est ça qui fait qu'on peut soigner les patients.
Justement, Alain Luciani, quand vous collaborez avec une entreprise privée, est-ce que, comme par exemple avec GE, est-ce que ça va jusqu'où ça va? Est-ce que vous connaissez les locaux de GE? Est-ce que vous avez un pouvoir un petit peu décisionnaire?
Bien sûr, c'est intéressant. Alors, on collabore pas que avec General Electric.
Bien sûr.
On collabore avec beaucoup en fonction des centres d'intérêt. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans les modèles, et iDream pour moi est un modèle, c'est d'abord il y a un rationnel médical. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que l'idée, l'impulsion, elle vient des équipes médicales. D'ailleurs, pas que radiologie, qui peuvent être aussi avec des collaborations, des collègues cardiologues, des collègues hépatologues. Donc, il y a un besoin médical. Ce besoin, on arrive à le structurer par un projet de recherche et on s'appuie sur des partenaires. Et la proximité du partenaire est un élément fondamental. D'ailleurs, dans les deux sens, à la fois pour que nous puissions connaître les ingénieurs d'application et les limites, mais aussi que les ingénieurs qui développent puissent venir au contact, j'allais dire même de nos patients, pour comprendre la complexité des prises en charge, qui est rarement binaire, hein, ça vous le savez bien. Et donc cette proximité alliée à l'impulsion médicale de départ, à mon avis, c'est ça qui fait l'engrenage d'un projet réussi. Et c'est pour ça aussi que de plus en plus, dans nos CHU, on développe cette culture de proximité et de développement avec des entreprises.
Alors Laurence, vous nous avez parlé donc dans votre boîte à outils, il y a un truc énorme quand même qui va être lancé, c'est ça, c'est la ligne de production de scanners médicaux en France.
Ouais, comme je le disais, ramener un scanner en France, oui, je pense que on a besoin. Voilà, on parle beaucoup de réindustrialisation et ça veut dire quoi? Ben ça veut dire avoir le courage, en effet, de ramener une ligne en France. C'est une preuve de confiance parce qu'on en discutait ce matin justement dans nos locaux. On est quand même un pays où les coûts sont importants, ça coûte souvent plus cher. Pourquoi c'est tellement important? Parce que déjà, ça va permettre de l'agilité. C'est-à-dire qu'on va, normalement, quand on commande un scanner, il faut entre 4 à 6 mois. Là, sur toute la zone Europe, on pourra livrer un scanner en 4 semaines. Et puis, d'un point de vue RSE, en fait, on va diminuer en fait le coût carbone de 84% du transport. Et ça, je pense qu'on ne peut pas, en ce moment, dire qu'on va faire de l'innovation, et on ne peut plus jamais dire qu'on va faire de l'innovation sans penser à l'RSE, sans penser à l'écologie. C'est ça aussi, être un acteur de santé responsable. Donc un scanner fait à Buc qui va nous permettre de continuer à accélérer justement notre capacité de recherche, parce que je pense que je réappuie sur ce point, mais être basé à côté de nos clients, c'est ce qui favorise la recherche et le développement des produits. En fait, ça c'est vraiment très important.
Alain Luciani, à un moment donné, on parlait de déficit en France, hein, de scanners, d'IRM. On est en train de rattraper les choses ou pas?
J'allais dire oui et non. Oui par rapport à la situation qu'on a connue, non par rapport aux besoins qui de toute façon vont être vraiment exponentiels.
Et par rapport aux autres pays européens?
Alors on reste toujours en retard par rapport aux autres pays européens, même si on arrive à finalement produire plus d'actes médicaux par machine, mais par nécessité. Mais il faut quand même se mettre avec deux défis en tête. D'abord un défi démographique, juste un chiffre, en 2050 la population des gens de plus de 60 ans aura doublé. Donc ça nécessite forcément plus de soins. Et le deuxième grand défi, c'est les maladies chroniques. Le grand défi des maladies chroniques, les syndromes métaboliques, le diabète, le cholestérol, tout ça qui va finalement générer des maladies qui vont nécessiter plus de besoins médicaux. Il faut qu'on anticipe, qu'on ne soit pas une nouvelle fois à découvrir trop tard qu'on a raté le coche. Donc il faut continuer à accompagner ce développement des équipements, mais pas que, hein, pas que de la radiologie, de la biologie, des soins cliniques, de tout ce qui fait les bonnes pratiques médicales en France.
Benoît Collineau, est-ce que vous sollicitez vous-même, vous êtes sollicité par les start-up, et comment pourrait-on dire aux start-up, allez voir Business France? Est-ce qu'elles le font ou alors est-ce que...
Ah oui, on accompagne beaucoup d'entreprises, ouais, dans les faits, hein, ouais, à l'international, sur tous les grands marchés, même des marchés parfois un peu plus obscurs, mais qui
toute boîte quand elle se crée, donc à connaissance de Business France.
On a une vraie mission de service public en la matière, pour en quelque sorte aider les entreprises à la fois à défricher des marchés. Est-ce qu'elles doivent y aller ou pas y aller? Mm-hmm. Dans quelles conditions? Quelles conditions en termes de sécurisation aussi, il y a quand même des pays un peu compliqués. Quel potentiel du marché, certes, mais aussi comment on rentre aussi en contact, par exemple, avec des prescripteurs. Si on parle de radiologie, il faut pouvoir aussi, si on a une solution en la matière, d'IA, d'interprétation d'image, pouvoir aller voir un KOL américain ou un KOL des Émirats pour expliquer un peu sa solution. Donc il y a tout ce travail aussi de rentrer un peu dans les canaux locaux. Donc c'est là où on intervient, nous, Business France, en lien avec les services diplomatiques d'ailleurs aussi. Et puis après aussi avec tout un, on travaille pas tout seul, hein, on travaille avec tout un écosystème aussi de consultants, de sociétés de conseil privées qui ont des expertises complémentaires de ce qu'on fait en termes de RH, etc. Donc,
Laurence Contarassus, on va vous laisser quand même conclure. Donc, quels sont les éléments clés donc pour réussir à mettre en place une boîte à outils efficace, quoi, quand on est une boîte internationale surtout?
Ouais. Alors j'allais dire oser, courage, collaboration. Je pense que ça c'est des points clés et on a besoin d'innovation, du Made in France, du partenariat. Et si vous me permettez, je voudrais dire un merci à deux personnes qui sont Jean-Luc Procaccini et Fabien Moelleux, parce que ces deux personnes qui ont eu le courage, eh bien quand on est une société internationale, de mettre tous les moyens en œuvre pour amener cette ligne justement de scanner en France. Et ça fera la différence, j'en suis certaine. Maintenant il nous reste juste à nous, en tant qu'équipe, à démontrer qu'on a eu raison de le faire. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Laurence Contarassus, merci beaucoup Benoît Collineau, merci beaucoup Alain Luciani. C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.